Merci beaucoup, Mélina.
Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Passez une excellente journée à l'écoute de Radio Classique et si possible, passez-la à l'ombre, car ça va cogner très fort, il est pile 8 heures.
8 heures, 9 heures, la matinale de Radio Classique. Avec Bernard Poirette.
Voici les titres du journal de 8h. Emmanuel Macron s'est donc rendu hier en aller-retour à Beyrouth, deux jours après la double explosion qui a ravagé la moitié de la ville, et il a appelé les dirigeants libanais, je cite, à un profond changement, des propos qui n'ont pas plu à une partie de la classe politique française. Ce sera aujourd'hui donc la journée la plus chaude de la semaine, et c'est parti pour durer plusieurs jours, au moins jusqu'à mercredi. Partout en France, on se prépare, notamment pour protéger les plus vulnérables. Et puis retour du foot, ça peut faire du bien si ça vous intéresse. En tout cas, huitième de finale, retour de la Ligue des Champions ce soir entre Lyon et la Juventus de Turin. Même si les supporters lyonnais ne pourront pas être sur place, Covid oblige, ils donneront de la voix depuis chez eux.
Radio Classique.
Il aura donc été le premier chef d'État étranger, et ce n'est pas surprenant bien sûr, à se rendre hier à Beyrouth.
Emmanuel Macron a d'abord constaté les énormes dégâts dans le quartier du port complètement anéanti. Il a été pris à partie par une partie de la population désespérée et en colère contre son gouvernement qu'elle accuse de corruption. Emmanuel Macron a promis d'aider le pays et il a appelé ses dirigeants à un profond changement de système.
La priorité, c'est l'aide, le soutien à la population, sans condition. Mais c'est l'exigence que la France porte depuis des mois, pour ne pas dire des années, en effet de réformes indispensables dans certains secteurs, on le sait. L'énergie, les marchés publics, la lutte contre la corruption. Si ces réformes ne sont pas faites, le Liban continuera de s'enfoncer.
Des réformes indispensables, donc. Emmanuel Macron a aussi réclamé une enquête internationale et il a promis de revenir sur place le 1er septembre. En France, ses propos ont suscité de nombreuses critiques de la classe politique. Jean-Luc Mélenchon ou encore Jordan Bardella du Rassemblement National accusent le président de faire de l'ingérence. Le politologue et chercheur franco-libanais Ziad Majed n'est pas du même avis.
Certains peuvent voir en cela une forme de politique d'un État qui était le mandataire, qui a contribué à la création du pays. Mais en même temps, on ne peut pas parler aujourd'hui d'une véritable ingérence, puisque ce sont une majorité des Libanais qui appellent la communauté internationale à conditionner les aides parce qu'ils ne font pas confiance en leur gouvernement et en leurs autorités médiocres et corrompues. Quitte à entendre des discours comme le discours du président français. Et à travers le Liban et au-delà du Liban, il peut y avoir un rôle français dans le Moyen-Orient que Macron a certainement en tête en essayant aujourd'hui de venir à l'aide du Liban et des Libanais.
Propos recueillis par Rémi Vallès. Selon un dernier bilan encore provisoire, au moins 149 personnes sont mortes à Beyrouth. Parmi elles, un Français. Au moins 40 autres Français figurent parmi les 5000 blessés. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Du côté de l'enquête, 16 fonctionnaires du port ont été arrêtés hier. C'est le stockage de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium dans un entrepôt du port qui serait à l'origine du drame.
Le nitrate d'ammonium, haute substance hautement dangereuse et inflammable, qu'on retrouve bien évidemment aussi chez nous en France.
Utilisé pour fabriquer des engrais et des explosifs, le nitrate d'ammonium avait notamment causé l'explosion de l'usine AZF de Toulouse en 2001. Camille Schwitt, vous avez mené l'enquête. Il existe une centaine de sites de stockage dans l'Hexagone, dont 16 classés à haut risque.
À Ambès, au nord de Bordeaux, 6 usines classées Céveso seuil haut, dont certaines du nitrate d'ammonium. Kevin Subrena, le maire de la ville, l'assure, tout est fait pour garantir la sécurité des habitants.
Et des zones autour de l'industriel qui ne pourront pas faire l'objet d'une urbanisation. On informe les administrés du risque potentiel qu'il y a sur la commune et des gestes à tenir en cas d'avarie.
Les mesures de sécurité sont drastiques sur le papier, mais pour Anne-Laure Sablé de l'association environnementale Les Amis de la Terre, c'est leur mise en pratique qui laisse à désirer.
On sait malheureusement, par exemple, que le leader mondial des engrais chimiques qui est implanté au niveau de Saint-Nazaire, Bordeaux et Le Havre ne respecte pas cette réglementation et a déjà été mis en demeure pas moins de 11 fois depuis 2015. La vraie question, c'est les moyens qui sont mis en œuvre pour contraindre des entreprises à respecter cette réglementation-là.
Elle estime qu'il y aura toujours des risques tant que les engrais à base de nitrate d'ammonium continueront d'être utilisés dans l'agriculture.
Il faut envisager des politiques publiques plus structurantes pour savoir comment réduire notre dépendance à ces substances-là pour en limiter leur usage et limiter du coup leur présence sur le territoire français.
En attendant une réelle transition agricole, elle souhaite que les sanctions soient renforcées en cas d'infraction.
Et selon nos confrères de France Bleu Armorique, près de 60 000 tonnes de nitrate d'ammonium transitent chaque année par le port de Saint-Malo. Hier, en fin d'après-midi, au Havre, un homme de 34 ans a retenu 7 employés d'une banque en otage durant plusieurs heures. Il avait déjà des antécédents judiciaires et psychiatriques et il a fini par se rendre sans que personne ne soit blessé.
Radio Classique, le journal. Mélina Fachin.
Vous l'avez sans doute constaté, dès cette nuit d'ailleurs, c'est le retour de la canicule.
Avec un pic de chaleur aujourd'hui, 45 départements des Hauts-de-France jusqu'au sud-ouest sont placés en vigilance orange et cet épisode caniculaire va durer plusieurs jours, explique François Jobard, prévisionniste à Météo France.
C'est un véritable dôme d'air chaud qui s'installe sur l'Europe. On attend dans certaines villes du sud-ouest des pointes à 40 voire 41 degrés. C'est un épisode qui devrait durer environ une semaine. Mais à partir de ce week-end, la masse d'air va devenir un petit peu plus humide, plus lourde. La sensation de chaleur pourra être démultipliée avec un phénomène d'accumulation de chaleur qui fait que dans les grands centres urbains, chaque nuit sera plus chaude que la précédente.
Il n'y a donc pas que dans le sud-ouest qu'on va suer ces prochains jours. Même au nord de la Seine, Mélina, le mercure va très nettement grimper.
À Reims, il fera 34 degrés cet après-midi. Sur place, on s'est organisé notamment pour venir en aide aux personnes âgées et handicapées, explique Marie Depaqui, adjointe à la mairie.
Dès que le préfet annoncera le niveau 3 de la canicule, nous appellerons les personnes une fois par jour. Et si on détecte quelque chose qui nous alerte ou si les gens se plaignent de quelque chose, on est là pour leur donner des conseils, d'appeler leur médecin traitant par exemple, leur infirmière, de discuter avec leur intervenant à domicile. Alors je dirais grâce ou à cause de la crise sanitaire que nous venons de traverser, nous avons créé sur la ville de Reims un vrai réseau avec les professionnels, avec les associations qui travaillent au quotidien avec les personnes âgées ou handicapées. Donc on peut, quand on est inquiet, signaler ces personnes à nos associations, à nos travailleurs sociaux.
Propos recueillis par Alexandre Ravasi. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, lui, visitera ce matin l'EHPAD de Thiviers, en Dordogne. À cause de ces fortes chaleurs, un immense morceau d'un glacier du Mont-Blanc menace de s'effondrer. Des dizaines d'habitants et de touristes ont dû être évacués hier. La circulation différenciée, toujours pour les mêmes raisons, est reconduite à Paris. Comme hier, seuls les véhicules avec des vignettes critères 0, 1 ou 2 auront le droit de circuler à l'intérieur de l'A86. Paris, où le port du masque va sans doute devenir obligatoire dans l'espace public en début de semaine prochaine. Il sera aussi fortement recommandé le masque dans les universités qui rouvriront à la rentrée. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de l'Enseignement supérieur.
Question, la chasse à la glu, c'est une chasse aux oiseaux, va-t-elle bientôt être interdite en France?
Cette pratique est dans le collimateur de la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, ce qui attise évidemment la colère des chasseurs. Ils menaçaient de manifester demain, mais ils seront finalement reçus dès aujourd'hui par le Premier ministre Rémi Pfister.
De la colle sur les branches pour y piéger les oiseaux qui s'y posent. Cette chasse est encore pratiquée dans 5 départements de la région PACA. Une dérogation permet la capture de 42 000 griffes par an. Pour Marc Messel, président de la Fédération des chasseurs du Var, la supprimer, ce serait porter un coup à la chasse traditionnelle.
Il y a beaucoup de personnes âgées qui la pratiquent. C'est une coutume, une us provençale. Nous n'apportons aucun prélèvement excessif vis-à-vis de l'espèce grive, puisqu'on prélève 42 000 maximum oiseaux sur un potentiel de plus de 600 millions.
La France est pourtant le seul pays du continent qui autorise encore cette pratique. La Commission européenne menace d'engager des poursuites, car cette chasse à la glu menace des espèces protégées comme les chardonnerets, selon Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de protection des oiseaux.
N'importe quel oiseau peut se prendre dès lors qu'il se pose sur ses baguettes engluées. Les piégeurs nous disent le cœur sur la main qu'ils vont relâcher les espèces protégées. Sauf que nous, on a placé des caméras, les piégeurs arrachent les oiseaux et les jettent dans la nature, mais évidemment, les oiseaux sont incapables de survivre avec la moitié du plumage en moins. C'est scandaleux.
À midi, les chasseurs seront reçus à Matignon par le Premier ministre. Leur dérogation devrait être encore maintenue pour un an, contrairement à ce que Barbara Pompili souhaitait. Mais le quota de capture sera revu à la baisse.
Le lobby des chasseurs et son pouvoir en France, on en reparle dans un instant avec Jean-Christophe Buisson. Et au-delà, je poserai une question sur cette affaire aussi à Clément Beaune, le secrétaire d'État en charge des affaires européennes, qui sera notre invité.
Jean Castex, qui qui obtient 36% de confiance selon le dernier baromètre mensuel Elabe pour Radio Classique. Emmanuel Macron, lui, gagne 4 points à 39% d'opinion favorable. Les salariés français d'Amazon vont recevoir une prime de 500 à 1000 euros. C'est ce qu'a annoncé hier le groupe américain pour les remercier de leur investissement durant la crise sanitaire. Aux États-Unis, pour la première fois depuis 3 mois, plus de 2000 personnes sont décédées hier du coronavirus. L'Inde, elle, a dépassé le cap des 2 millions de cas de contamination.
Et nouvelle preuve que le Covid-19 n'épargne absolument personne. On a appris hier que plusieurs joueurs de rugby du Stade français sont testés positifs.
Les joueurs ont été testés mercredi en rentrant d'un stage à Nice. À un mois de la reprise du top 14, c'est une très mauvaise nouvelle pour le Stade français. En football, chez les Lyonnais, heureusement, tout le monde va bien. L'OL se déplace ce soir en Italie pour son 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre la Juventus Turin. Il leur faut juste faire un match nul pour se qualifier, étant donné qu'à l'aller en février dernier, les Lyonnais l'avaient emporté 1-0. Le match ce soir à 21h se jouera à huis clos. Mathis, grand supporter de l'OL, ne pourra donc pas y assister, mais il soutiendra son club autour d'une bière.
Le match, je vais le regarder dans un bar avec un pote. Ça va être bizarre, c'est sûr, parce que c'est quand même la Ligue des Champions, manque de public et tout. Même moi, de le regarder à la télé, je me disais que ça ferait bizarre, mais avec les jours qui approchent, ça reste la Ligue des Champions. Et je sens l'envie monter et je sens la ferveur en moi revenir. Et j'ai quand même bien envie qu'on les batte, même sans public. Ça me donne envie de le regarder, de retrouver enfin du foot, d'oublier un peu la période qu'on a vécue, de retrouver l'équipe que j'aime. Et je pense que Lyon peut le faire et Lyon va le faire.
C'est à voir, on va suivre ça évidemment. Propos recueillis par Sarah Loubacouche.
En tout cas, Rudy Garcia, l'entraîneur, a l'air persuadé qu'ils vont gagner en tout cas.
Ah bah oui, allez, il faut y croire. Un point sur vos conditions de circulation, Bernard, pour finir. Bison futé hisse le drapeau orange dans le quart sud-est, dans le sens des départs et des retours. Ce sera vert sur les routes partout ailleurs en France.
Merci Mélina Fachin. Vous revenez dans une petite vingtaine de minutes pour le rappel des titres. Il est 8h12 exactement. Dans un instant, l'édito politique. Normalement, les chasseurs à la glu menacés par les règles européennes devaient protéger. Testé demain à Brégançon, mais Jean Castex les reçoit tout à l'heure. C'est dire qu'on ne plaisante pas avec les chasseurs, ni avec les vacances du président, d'ailleurs, de retour de son séjour express.